France Info. Céline Baydarcourt, l'infomédia est d'abord le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se penche sur la question des décalages horaires en soirée à la télé.
Les sages vont réunir l'ensemble des groupes de télé le 27 mai, alors qu'ils reçoivent chaque semaine 20 plaintes de téléspectateurs en moyenne. Des courriers pour râler contre le non-respect du début des prime time. Les programmes censés commencer à 21h débutent plutôt vers 21h10 et même 21h20 sur les chaînes qui diffusent une émission en direct juste avant. C'est le cas de TMC et C8 respectivement avec Quotidien et Touche pas à mon poste.
Le CSA. Par ailleurs, saisi par Yann Brossat.
La tête de liste communiste aux élections européennes est de nouveau furieux contre France 2. Il n'accepte pas d'être relégué dans la deuxième partie du débat organisé par la chaîne la semaine prochaine, alors que 6 candidats ont obtenu le droit de figurer dans la première partie. France 2 les a choisis en fonction des critères de représentativité, les sondages, le nombre de parlementaires, les résultats des précédents scrutins. Benoît Hamon menace, lui, de boycotter cette émission si le service public ne modifie pas sa programmation.
Notre invité est le cofondateur du site d'investissement Disclose, qui a dévoilé le mois dernier que des armes françaises étaient utilisées dans le conflit meurtrier au Yémen en ce moment. Des révélations qui ont valu à 3 journalistes d'être convoqués à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
Bonjour Mathias Destal.
Bonjour.
Vous étiez donc entendu hier avec votre collègue Geoffrey Livolsi. Aujourd'hui, c'est Benoît Colombat de la cellule investigation de Radio France qui est auditionné dans le cadre d'une enquête pour atteinte au secret de la défense nationale. Comment s'est déroulé votre interrogatoire ?
Écoutez, on a été convoqué à 9h30 hier matin au quatrième sous-sol des locaux de la DGSI à Levallois-Perret. Ça a duré un peu moins d'une heure. Il y avait 7 pages de questions qui nous ont été posées par les enquêtrices de la DGSI dans des locaux séparés, Geoffrey Livolsi et moi. C'était tendu et surtout, dès le départ, il nous a été bien spécifié que nous étions là en tant que citoyens ayant commis une infraction pénale.
Pas en tant que journaliste.
Non, pas en tant que journaliste. Il a été clairement dissocier notre qualité de journaliste avec celle de l'infraction qui nous est reprochée d'avoir publié des documents classifiés confidentiels défense.
Et ça, c'est tout le problème. Parce que vous voulez opposer le secret défense au droit... Enfin, justement, ne pas opposer le secret défense au droit à l'information. Vous revendiquez ce droit à l'information. C'est pour ça que vous avez publié cette enquête.
Tout à fait. C'est pour nous complètement absurde de nous dissocier de notre qualité de journaliste et de la publication de ces documents. Parce que ces documents, nous les publions Lyon, parce que nous sommes journalistes et que ces documents sont d'intérêt public et intéressent le débat national.
On a cherché à connaître votre ou vos sources.
Évidemment, c'est l'une des questions qui était posée parmi les dizaines et dizaines de questions, à savoir qui nous avait transmis ces documents et par quel biais. Nous avons évidemment gardé le silence sur l'ensemble de l'interrogatoire.
Vous n'avez rien dit pendant une heure.
Rien dit pendant une heure.
Ça a dû être long. Hein.
C'est pour ça que ça ne durait qu'une heure, parce qu'il y avait beaucoup de questions, notamment beaucoup de questions sur le média.
Pas un mot.
Les présentations d'usage, nom, prénom, numéro de téléphone, rien de plus.
Et la suite alors, est-ce qu'il va y avoir des poursuites contre vous ?
Et la suite n'est pas claire du tout. Pour l'instant, l'enquête est confiée au parquet de Paris, à la section antiterroriste, c'est important de le souligner. Donc c'est une enquête préliminaire sans juge indépendant. On n'a pas eu de rappel à la loi, on n'a pas eu d'éléments nous précisant quel serait l'avenir de cette enquête. Donc c'est effectivement compliqué et c'est une volonté claire de nous fragiliser dans notre travail de journaliste et nous intimider aussi pour la suite.
Est-ce que vous pensez que vos sources sont identifiées par les autorités et donc qu'elles risquent d'être poursuivies ?
J'espère que non. On a mis en place tous les moyens et protocoles de sécurité pour éviter que nos sources soient identifiées. Ensuite, le travail de la DGSI se fait aujourd'hui sous le sceau du secret puisqu'il n'y a pas de juge indépendant. Donc on ne connaît pas leur méthode d'investigation. Donc je ne sais pas.
Ça veut dire que vous êtes probablement sur écoute ?
C'est possible, c'est possible.
C'est des méthodes de renseignement. Que vous prenez vos précautions quand vous parlez avec vos confrères ou avec d'autres personnes ?
Absolument, on utilise des moyens de messages, de cryptation de messages, que ce soit nos messages par téléphone ou par email. D'ailleurs, mon collègue Geoffrey Livolsi s'est vu, pas reprocher, mais peut-être souligner le fait qu'il avait une messagerie Proton, qui est une messagerie cryptée d'envoi d'email. Oui, c'est tout à fait autorisé, mais on lui a signifié que c'était étrange. Ça ne l'est pas, la preuve était nécessaire qu'en amont, nous protégions nos communications. Oui.
Mathias Destal, que les services de renseignement français convoquent des journalistes, vous trouvez que c'est une atteinte à la liberté de la presse ?
C'est une atteinte à la liberté de la presse dès lors qu'on n'est plus dans le cadre d'un délit de presse, en fait. Aujourd'hui, c'est le renseignement français qui nous poursuit sous l'autorité d'un juge antiterroriste pour atteinte à la sûreté de l'État, pour une peine aujourd'hui qui pourrait nous valoir 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Oui, c'est clairement une atteinte à la liberté de la presse.
Mais vous pensez que les journalistes n'ont pas de compte à rendre ?
Les journalistes ont des comptes à rendre, mais ils doivent les rendre dans le cadre qui est celui des lois protectrices de la presse de 1881 et celui de leur statut de journaliste. Or là, on nous exclut de cette qualité-là.
Est-ce que vous pensez que toute information doit être portée à la connaissance du public, y compris des infos qui peuvent mettre en danger la sécurité de l'État, la sécurité d'agents français sur le terrain ?
Bien sûr que non, et c'est pour ça que nous avons publié ces documents qui ne mettent en cause et en danger aucun agent, aucune opération française à l'extérieur. Ces documents ne font que lister, prouver et confirmer que la France a vendu depuis des années et des années un arsenal d'armes aux belligérants de la guerre au Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et on les publie parce que le gouvernement et le pouvoir exécutif ne fait que promener les ONG, les parlementaires qui posent des questions sur ces armes et leur usage dans une guerre sanglante qui dure depuis 4 ans.
Emmanuel Macron dit avoir la garantie que ces armes vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ne servent pas à tuer des civils au Yémen.
Oui, mais on aimerait savoir quelles sont les garanties ou la garantie qui lui a été donnée. Les documents précisent qu'en plus, un grand nombre des armes sur le terrain aujourd'hui n'ont pas pu être repérées par les agents du renseignement militaire français. Ce qui veut dire comment on a une garantie qu'elles ne sont pas utilisées si les propres services de renseignement militaire ici sont incapables de dire où se situent ces armes sur le terrain.
Au vu des suites, depuis quelques jours, vous regrettez d'avoir sorti cette enquête ou pas ?
Absolument pas. Aujourd'hui, il y a un débat national sur l'usage des armes françaises dans cette guerre au Yémen. Il y a un débat aussi sur les exportations d'armes que nous faisons. La France est troisième exportateur d'armes au monde. C'est important de savoir où vont ces armes et à quoi elles sont utilisées. On est au contraire très fiers de pouvoir mener avec l'opinion publique un débat sur ce sujet.
Merci à vous Mathias Destal, cofondateur donc du média Disclose. Merci à vous Céline Baïdarcourt. On se retrouve demain matin.